Bonjour, bonjour, bienvenue dans Tu lis quoi, un podcast dans lequel je vous parle de mes dernières lectures. Je suis Clarisse et je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode. Épisode que je suis contente d'enregistrer parce que ça fait bientôt un an que je fais ce podcast. Bon, le mois de juin, on considère que c'est un an, hein. Le premier épisode, c'était, je crois, le 26 juin, donc voilà, on n'est pas loin. Pour l'occasion, j'ai recréé une petite vignette que j'ai eu le plaisir de faire en collage, etc. Donc j'étais contente, j'espère qu'elle vous plaira. En tout cas, moi, elle me plaît beaucoup et j'avais envie de faire ce petit renouveau pour les 1 an et continuer sur de bonnes bases, même si en ce moment on est plus sur un épisode par mois que 2, mais on va essayer de reprendre tranquillement. J'arrive un peu plus à lire en ce moment, donc j'espère qu'on va pouvoir continuer sur cette lancée. En tout cas, pour cet épisode, il y a plusieurs titres dont je vais vous parler. On est sur alors 3 romans, dont un une duologie, donc 4 techniquement, et un essai. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, j'ai été globalement contente de mes lectures. Ça change du dernier épisode où on était sur un petit enchaînement de déceptions. Là, pour le coup, c'était un peu plus fructueux quand même. Donc, je suis contente de pouvoir vous en parler. Écoutez, on va commencer avec le premier roman qui est « La beauté du mal » de Bea Fitzgerald. On revient sur mes marottes préférées, c'est-à-dire les réécritures mythologiques avec ce roman. Bea Fitzgerald, j'ai pas eu l'occasion de vous en parler en détail pour l'instant, parce que j'avais lu ces 2 premiers romans avant de commencer le podcast. Mais donc j'attendais avec impatience la publication en France du nouveau. Et La beauté du mal, pour le coup, ça reprend le mythe de Pandore. Pour vous resituer rapidement Pandore, son histoire est intimement liée à l'histoire de Prométhée. Prométhée, je vous le fais rapidement, hein, parce que sinon on a un podcast qui dure 2 heures, mais Prométhée, avec son frère Épiméthée, ce sont des titans qui se sont ralliés à Zeus quand il y a eu la guerre entre les dieux de l'Olympe et les titans, que les dieux ont gagné d'ailleurs. Et Prométhée est aussi connu pour avoir trahi Zeus. Par 3 fois, je crois. Dernière trahison ayant été de voler le feu pour le redonner aux humains pour éviter qu'ils ne meurent de froid et de faim. Sauf que Zeus n'a pas tellement apprécié ce vol et Prométhée a fini attaché tout en haut d'une montagne à se faire manger le foie et les entrailles à l'infini, puisque la journée, du coup, il se fait dévorer et le soir, tous ses organes repoussent et pour recommencer de plus belle le lendemain. Voilà, une belle punition. Et du coup, Pandore est liée à cette histoire puisque elle est créée par les dieux, façonnée par les dieux en guise de vengeance. C'est la première humaine femme. Avec tous les attributs qu'on reconnaît à une femme, bien sûr. Donc, elle va être assez vénale, surtout très curieuse, dans le mauvais sens du terme. Et c'est pour ça qu'on lui confie la boîte de Pandore qu'on connaît. Donc, il me semble que dans les récits, c'est plutôt une amphore, en lui disant surtout ne l'ouvre pas. Comme elle est bien sûr d'une vilaine curiosité, elle va finir par l'ouvrir et libérer tous les maux sur le monde, le renfermant au dernier moment et en ne gardant enfermé dans l'amphore que l'espoir. Voilà. Les maux étant bien sûr maladie, famine, tout ça. Hein, voilà. Donc, merci Pandore, on reste toujours sur une image de femme qui apporte le désespoir à l'humanité. Bien sûr, Bea Fitzgerald va explorer tout ça de façon beaucoup plus positive. Et du coup, on va suivre Pandore de sa création jusqu'à son arrivée chez Épiméthée, puisque elle est offerte en cadeau comme femme à Épiméthée, le frère de Prométhée. Et c'est comme ça qu'elle arrive aussi dans le monde humain. Et pour le coup, on est sur des personnages qui sont vraiment chouettes à suivre. J'ai beaucoup aimé sa réécriture qui explore donc la quête de soi, la quête un peu d'identité, puisque Pandore a été créée et a été créée par les dieux. On lui a insufflé des qualités, des défauts, des choses comme ça. Mais donc elle, elle est en quête de savoir qui elle est réellement. En ayant conscience hein, de tout ça, pas forcément conscience de la mission ou en tout cas ce qu'on attend d'elle exactement, mais en ayant conscience que y a des choses qui ne viennent pas d'elle, et elle essaye de faire le tri dans tout ça. Exploration aussi de sa relation avec Épiméthée qui démarre pas trop sur de bonnes bases puisque lui a bien conscience, contrairement au récit un peu original qui a anguille sous roche et que un cadeau des dieux est toujours empoisonné. Mais donc voilà, leur relation va se construire un peu sur la défiance et en même temps ils vont apprendre à se connaître. Ça parle aussi beaucoup de culpabilité, de comment on gère ça, de comment on se sent responsable de ce qui peut arriver autour de nous, de se reprocher de ne pas réagir. Et ça parle aussi, ce que j'ai trouvé hyper intéressant, de qu'est-ce qu'on fait quand on est face à des injustices ou qu'on pressent bien que quelque chose de mal va se passer. Est-ce qu'on reste passif? Est-ce qu'on agit malgré tout, même si on sait notre impact peut être compliqué ou trop minime? Est-ce qu'on se révolte? Est-ce qu'on se révolte pas? Enfin voilà, je trouvais que il y avait plein de choses qui étaient évoquées dans cette histoire, qui étaient vraiment très intéressantes. La romance est très présente, bien sûr, entre les deux. Ça fonde quand même une grosse partie de l'histoire, donc si c'est quelque chose qui vous botte pas, peut-être que ça va moins vous plaire, mais je trouve quand même que la réécriture est vraiment, vraiment très agréable. Je l'ai lu vraiment très vite pour le coup. Bea Fitzgerald a une écriture qui est quand même très fluide et très facile à lire. Elle a un défaut malgré tout, qu'on retrouve dans ses autres romans aussi, hein, c'est qu'elle a tendance à empiler les enjeux. On sent bien que la fin va se dérouler en une succession de twists. On le voit arriver, hein, même je râlais un peu toute seule en lisant le bouquin par moment, en me disant « oui, non, mais là, ça fait beaucoup quand même, on sait qu'il va y avoir beaucoup à gérer ». Peut-être pas obligé de nous rajouter une autre problématique. Ce qui fait que les fins de ces histoires sont quand même une succession de plot twists où tu demandes un peu où ça va s'arrêter. Mais j'avoue que je lui pardonne ce défaut-là. Parce que ce que j'aime bien chez elle, c'est qu'il y a un attachement et un amour de ces personnages qu'on ressent et qu'elle nous transmet aussi. On s'attache très vite aux personnages qu'on rencontre, que ce soit les personnages principaux ou des personnages un peu plus secondaires qui vont aller et venir dans l'histoire. Il y a une sincérité là-dessus, il y a une sincérité, mine de rien, dans les sujets qu'elle aborde. On sent que ça lui tient à cœur et je trouve que ça se transmet au lecteur. Donc j'avoue que je lui pardonne ce petit défaut de plot twist à répétition, en succession peut-être plutôt. Parce que voilà, c'est quand même une histoire qui aborde plein de sujets plus ou moins graves. Mais qu'on aborde avec plaisir, on se sent très vite impliqué dans l'histoire, et voilà, elle nous transmet son amour de ses personnages, qu'elle prend bien soin de décrire, d'approfondir, et donc pour ça c'est vraiment une lecture qui est vraiment très agréable, donc je vous la recommande, La beauté du mal de Bea Fitzgerald. J'ai passé vraiment un très bon moment. Voilà, voilà ce que j'avais à dire sur ce roman. On passe ensuite à la fameuse duologie, du coup, dont je vous parlais. Alors, le titre de la duologie, c'est Le gardien de la lumière, donc c'est de Guylain Laurent. Les deux tomes s'appelant Le porteur d'affranchis et La conjuration de l'aube nouvelle. Dans cette histoire, je disais, on la débute sur les chapeaux de roue, puisque on découvre tout de suite Raynor qui est dans un moment très compliqué de sa vie, puisque il fuit l'école dans laquelle il était formé pour être porteur de lumière, car dans ce monde-là, il y a de la magie qui existe, et certains individus découvrent à l'adolescence qu'ils sont donc porteurs de cette lumière, qui est un pouvoir notamment de guérison, principalement, mais pas que. Et du coup, à ce moment-là, les us et coutumes font qu'ils sont obligés d'aller se former dans une des écoles qui existent dans cet empire pour apprendre à s'en servir et être formé à différentes applications possibles et utilisations possibles. Il est donc en train de fuir son école et il est en train de pourchasser son maître, surtout celui qui l'a formé jusque-là, qui l'avait introduit dans des histoires plus ou moins sombres, on le découvrira au fur et à mesure du récit, et surtout ce maître qui a assassiné son compagnon, son amour de jeunesse, et c'est Raynor qui va être accusé en attendant de ce meurtre. Cette course-poursuite va le mener aux abords de Lunel qui est une cité-état, puisqu'on est, on se place du coup dans un empire, un empire avec une construction assez féodale, avec des grandes familles nobles, etc. Mais Lunel fait un peu exception à cette règle, puisqu'il y a des centaines d'années, ils ont réussi à obtenir leur indépendance, et donc c'est une cité qui marche d'une manière un peu différente, et qui est indépendante de tout ça. Son maître s'est visiblement réfugié à Lunel. Il va donc essayer de s'y introduire un peu sans succès, mais dans cette course et aux abords de cette ville, il va rencontrer Léorin, qui est lui membre d'une communauté un peu plus indépendante, qui s'appelle Affranchi. La rencontre est un peu musclée, puisqu'on est plutôt dans un combat de cap et d'épée au départ. Et puis finalement, les deux personnages vont un peu s'apprivoiser, et Léorin va amener Raynor à Affranchi. Et tout ça, Raynor va découvrir cette communauté qui vit aux abords de la ville, va s'y installer et puis va ensuite essayer de poursuivre sa vengeance. Son but étant quand même de retrouver son ancien maître et de le traduire en justice et de venger la mort de son amoureux. Voilà comment je peux vous résumer sans trop vous spoiler. Le gardien de la lumière. Écoutez, j'ai passé un très bon moment à lire cette histoire. J'ai beaucoup aimé notamment les personnages. Raynor est un personnage qui est très intéressant, qui permet de développer toutes les questions de... on est encore sur de la culpabilité, mais sur aussi un peu gestion de la colère, comment on gère son deuil, comment on gère la culpabilité qui peut nous habiter dans ces cas-là. Et Léorin va explorer d'autres facettes d'une personnalité que je vous laisserai découvrir pour le coup, parce que j'ai bien aimé découvrir Léorin. C'est un personnage qui est un peu plus haut en couleur, qui est plus sûr de lui, plus bravache aussi, et plus extraverti. Mais le duo est vraiment très chouette à suivre. On est content de découvrir aussi le développement de leur relation, parce que bien sûr, il va se passer des choses entre Raynor et Léorin. Mais vraiment, c'est un duo que j'ai beaucoup aimé découvrir, j'ai beaucoup aimé les voir évoluer ensemble. Et puis, tout le panel de personnages est aussi très intéressant. La population d'Affranchi, les dirigeants. J'ai beaucoup aimé aussi l'univers de Lunel, cette cité-état un peu... un peu indépendante et qui a une construction politique assez particulière. Tout est en plus introduit de manière très fluide. On sait pas encore tout de suite toujours de quoi on parle, mais au fur et à mesure, l'auteur nous donne toutes les indications dont on a besoin. On n'est jamais perdu, on n'a pas l'impression de devoir ingurgiter un nombre de règles et de principes... compliqués, ce qui peut parfois être le cas quand on découvre un nouveau monde dans de la fantasy. Là, tout est très fluide et le fonctionnement de Lunel pose plein de questions politiques, sociologiques et tout qui sont hyper intéressantes à découvrir aussi. Donc j'ai vraiment bien aimé tout ça, tout le complot politique. Et bien à suivre aussi. On se demande parfois un peu où ça va aller et comment ça va finir. Donc voilà, tout ça est très bien mené. Donc je me suis vraiment attachée aux personnages. J'étais vraiment contente de les voir évoluer et de les suivre, d'avoir peur pour eux, de voir comment tout ça allait évoluer. J'ai peut-être un petit bémol concernant l'écriture, je pense. J'ai mis un peu de temps à mettre le doigt dessus, je vous dirais. C'est pas un obstacle insurmontable, hein. Là-dessus, je vous conseillerais dans tous les cas la lecture de cette duologie. Mais c'est vrai que par moments, l'écriture est peut-être un peu trop explicative. Dans le sens où c'est pour le coup une histoire où il y a beaucoup de représentations, que ce soit politique, ethnique, les sujets qui sont abordés. On parle aussi voilà, de complot, on parle un peu de tout ce qui est enjeux de classe sociale, etc. Comment on gère tout ça? On parle de la guerre aussi, des enjeux que ça peut représenter, d'oppression de peuples via des combats comme ça qui sont menés, d'esclavage. Enfin voilà, ça brasse beaucoup de sujets qui sont très intéressants à aborder. Mais c'est vrai que parfois le propos est un peu trop explicatif. On voit bien que Guylain Laurent veut nous dire des choses, veut les affirmer, veut affirmer ses valeurs, et ce qui, moi, me convient très bien, puisque je partage ses valeurs. Mais c'est vrai que peut-être parfois ça manque un peu de subtilité, c'est un peu trop déclamé. Voilà, dans la bouche des personnages, etc. Mais ça aurait pu être un peu moins frontal ou voilà, être un peu plus subtil, je pense que c'est ça. Après, c'est une écriture, ou enfin en tout cas une façon de faire qui, je trouve, correspondrait bien à un public un peu plus adolescent. Sauf que moi, je ne le conseillerais pas à des adolescents, puisqu'il y a quand même des scènes de sexe explicites dans l'histoire. Qui fait que, de moi-même, je ne dirais pas « bah tiens, vas-y, lis ça !» Parce que je sais que il y a aussi des scènes qui sont pas forcément adaptées à un public un peu plus jeune. Donc ce qui fait qu'on est parfois un peu dans un entre-deux en termes d'écriture, que je trouve un peu dommage. Après, voilà, comme je vous dis, c'est un bémol que je trouve, mais qui n'est pas non plus gênant ou insurmontable. Il faut juste, voilà, le savoir. Moi, je sais que c'est parfois des choses qui me chiffonnent un petit peu. Mais voilà, rien d'insurmontable. Mais ça n'empêche que ce qui l'emporte, c'est mon attachement au personnage. Et puis, je m'interroge un peu. Parce que, alors, pour le coup, si vous lisez les deux tomes, l'histoire principale est finie. En tout cas, il y a une clôture. Ça pourrait être poursuivi, mais c'est pas nécessaire. On reste pas sur une interrogation. On sait où ça va, on sait comment ça se termine. Par contre, il y a d'autres pistes un peu plus secondaires qui, je trouve, restent en suspens. Et je me demande si ça pourrait donner lieu à une suite potentielle, des choses comme ça. Et je trouve qu'en plus, ce serait intéressant à creuser, que ce soit, disons, comment je vais le dire subtilement sans trop spoiler, interrogation notamment sur la rose, interrogation sur peut-être l'avenir de Lunel, sur l'habitante. Voilà, j'en dirai pas plus. Si vous l'avez lu, je pense que vous comprendrez. Et si vous ne l'avez pas encore lu, je pense pas que ça vous spoile trop de choses. Donc voilà, j'envoie un appel si jamais vous avez des idées sur ce que ça pourrait donner, mais je serais curieuse. Et pour le coup, je serais contente de pouvoir lire une suite à tout ça, ou en tout cas un spin-off, ou voilà, quelque chose qui s'inscrit dans le même univers. J'ai une novella à lire pour le coup, parce que l'auteur a écrit une novella sur le... Pour le coup, c'est... antérieure, puisque c'est sur le passé de Léo Rhin, et que j'ai très envie de lire, parce que Léo Rhin, c'est un personnage qui m'a beaucoup touchée, qui était hyper intéressant, plein de complexité, et je l'ai beaucoup aimé. Ça a été un de mes préférés. Voilà ce que j'avais à vous dire sur donc Le Gardien de la Lumière, une duologie de Guislain Laurent. Dernier mot, c'est ça que je voulais dire aussi. C'est édité dans une maison d'édition qui s'appelle Les Mondes Flottants. Et je vous conseille vraiment cette maison d'édition. Je le dis pas toujours parce que je suis pas toujours très fan de la surenchère en termes de comment dire, beauté des livres, visuel des livres, des reliés qui coûtent 35 balles avec des machins, des trucs, enfin voilà. C'est parfois des choses qui m'agacent et qui envoient un peu de poudre aux yeux. Le Monde Flottant, c'est encore autre chose. C'est une toute petite maison d'édition pour l'instant, qui grandit tranquillement et j'en suis très contente, mais qui font vraiment des beaux livres. La présentation est très belle, très agréable, et puis là notamment dans Le Gardien de la Lumière, il y a des illustrations par moments aussi de l'histoire qui correspondent à des scènes, etc. Et c'est vraiment très beau. Très original, très agréable. Ça fait un peu partie aussi de leur marque de fabrique. Je sais qu'ils veulent évoluer vers d'autres types aussi de publications, mais voilà, je tenais à le souligner. La maison d'édition fait un boulot vraiment hyper cool, qui est le produit de très beaux objets. Et si vous avez l'occasion de les croiser dans des salons aussi, vous verrez qu'ils sont adorables. Donc je vous conseille de leur parler et d'aller voir les livres qu'ils publient, parce que c'est vraiment une très belle maison. Voilà, je voulais avoir un petit mot sur la maison d'édition en particulier. Ça arrive pas souvent, mais là pour le coup ils font un travail très original et vraiment très chouette à suivre. Je vais passer du coup au troisième roman, qui est When We Were Monsters. Oui, mon accent. When We Were Monsters, de Jennifer Niven. On change complètement d'atmosphère, puisque là, on va plutôt être dans un huis clos qui se passe en Nouvelle-Angleterre. On est dans un pensionnat globalement qu'on comprend qui est vraiment pour l'élite, majoritairement des gosses de riches ou des élèves qui ont réussi à arracher une bourse pour se payer une éducation dans ce pensionnat très prestigieux. Et on se retrouve durant un moment où certains élèves ont été sélectionnés pour suivre une sorte de... C'est pas un stage, mais si, peut-être un stage d'écriture. On est sur des futurs auteurs, alors scénaristes, poètes, écrivains, écrivaines, enfin voilà. Vraiment tout type d'écriture. C'est un stage qui est très recherché, les sélections sont vraiment très drastiques, et donc on va arriver au moment où ces élèves qui ont été sélectionnés arrivent pour 3 semaines de formation avec une autrice très célèbre, Meredith Graham, qui est connue pour avoir écrit des choses très autobiographiques, avoir une vie assez tumultueuse, mais avoir réussi à se faire connaître, notamment connaître très jeune avec son premier roman. Et donc, dans cette histoire-là, on va notamment suivre Effie et Harlow. On a leurs deux points de vue à chaque fois. pour découvrir ce qu'il s'est passé durant ce stage, puisqu'on apprend très rapidement que ces élèves ont tué leur professeur. Qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, comment. Donc voilà, on commence sur cette interrogation et donc on va remonter le temps et découvrir au fur et à mesure qu'est-ce qui s'est passé et comment ils en sont arrivés là. Encore une fois, écoutez, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. J'aime bien cette atmosphère un peu étudiante, lycéenne. J'aime bien le côté huis clos aussi. Si jamais vous avez la référence, effectivement, alors c'est indiqué sur la quatrième de couve, mais c'est vrai que ça fait tout de suite penser au Maître des Illusions de Donatarte. Moi, je l'ai lu il y a longtemps. J'aurais pu tous les détails, mais je sais que j'avais bien aimé. Et on se retrouve de nouveau dans ce côté, alors, huis clos dans un énorme manoir qui est assez étrange, qui a une histoire un peu particulière. Une atmosphère aussi très La Maison Hantée de Shirley Jackson. D'ailleurs, l'autrice y fait référence à un moment dans le roman. Et du coup, il y a toute cette pression qui est autour de ces élèves. Au fur et à mesure, les défis que leur donne cette professeure qui est assez quand même particulière, qui veut les pousser dans leur retranchement, qui fait un peu naître aussi la compétition entre eux, puisque c'est tout l'enjeu, hein, c'est que il n'y en a qu'un qui sera gardé à la fin pour avoir un contrat, être publié, etc. Enfin voilà, donc il y a quand même un truc à gagner à la fin. Le but, c'est de s'éliminer les uns les autres. Et cet enfermement au fur et à mesure, on sent cette emprise aussi psychologique qui s'installe au fur et à mesure des pages, au fur et à mesure des semaines, et qui crée une atmosphère quand même assez oppressante et assez angoissante, qui, je dirais, a bien fonctionné. Je n'étais pas terrifiée, mais on se sent par moments un peu quand même noué et stressé en voyant les choses se dérouler et arriver. Un peu de l'extérieur, les élèves sont un peu conscients et en même temps ils ont une envie de plaire et de réussir, chacun avec des enjeux différents. Les deux personnages qu'on suit pour le coup sont... assez intéressant et bien construit aussi. Ils ont une psychologie quand même assez cohérente dans leurs attentes également. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas trop de couacs. Je me suis demandé un moment, parce qu'ils sont quand même jeunes, on n'est pas sur des étudiants de fac, on est vraiment sur des lycéens. Je pense, voilà, le terminal, quoi. Ils ont 17-18 ans. Avec toujours cette question de est-ce qu'ils sont bien écrits pour des adolescents. J'avoue que c'est un peu ma marotte quand même. Je me suis posé la question par moment, et en même temps je trouve que l'emprise ambiante sur ces élèves fonctionne peut-être mieux parce qu'ils sont justement adolescents, dans cette fragilité de quête de soi, de vouloir plaire à un adulte qu'ils aiment et dont ils apprécient le travail, enfin voilà. Je dis pas que ça peut pas arriver quand on est plus âgé et étudiant dans des années un peu plus élevées, mais ça s'explique encore plus, je trouve, dans leur questionnement aussi. Donc j'ai trouvé ça quand même pertinent, ça allait. Voilà, et donc voilà, j'ai vraiment passé un très bon moment. Cette professeure devient de plus en plus inquiétante, effectivement. On se demande au fur et à mesure comment ça va finir, qu'est-ce qui va leur tomber sur le coin du nez, des réponses à comment ils en arrivent là. Donc voilà, j'ai bien beaucoup aimé. C'est un très bon. Je ne sais pas si ça pourrait se classer dans du thriller, peut-être un peu plus, oui. Mais en tout cas, voilà, j'ai bien aimé me laisser envoûter par When We Were Monsters et suivre ces élèves et connaître leur fin et savoir ce qui allait leur arriver, parce que je me suis quand même beaucoup inquiétée pour eux. Donc voilà. Je vous le conseille. C'est toujours compliqué, je trouve, de parler de ce genre de roman. J'espère que je suis assez claire, parce que j'ai pas envie de vous spoiler quoi que ce soit. Pour le coup, il faut vraiment le découvrir. Déjà qu'on commence avec un spoil, puisqu'on sait que la professeure meurt, j'ai pas envie de vous donner plus d'indications sur le déroulé. Donc j'espère que ça vous aura donné quand même envie de le lire. En tout cas, je vous le conseille. When We Were Monsters de Jennifer Niven. Voilà. Bah écoutez, on arrive au dernier titre dont je voulais vous parler, le seul dont je ne vais pas dire du bien, malheureusement. Alors, c'est l'essai que j'évoquais en introduction, et ça s'appelle « Le gaslighting ou l'art de faire taire les femmes » d'Hélène Frappa. Alors, le gaslighting, si vous ne connaissez pas, c'est un mot qui désigne, je vais essayer de le résumer correctement, un peu la stratégie, une stratégie de manipulation pour décrédibiliser la parole ou le ressenti d'une femme. Ça va être l'exemple classique de essayer de la faire passer ou la faire sentir comme folle. Voilà, elle dit n'importe quoi, elle invente des choses, il s'est jamais passé ça. Enfin voilà, c'est tout ce processus-là pour aussi avoir une emprise sur elle, pouvoir la manipuler, la décrédibiliser complètement, la faire sentir faible et comment dire et enclencher une perte de confiance en soi, mais aussi dans son ressenti et dans avoir l'impression que ce qu'elle vit n'est pas vrai. Enfin voilà, ça va être tous ces processus-là. Et du coup, l'autrice va expliquer d'où ça vient, parce que donc c'est un mot anglais qui n'a pas encore tellement de traduction française, parce que ça vient vraiment, c'est né là-bas. Et elle part du film qui a fait naître ce mot, qui est un film des années 40, 50, si je me souviens bien, qui s'appelle Gaslight, où un homme qui épouse une femme va au fur et à mesure l'enfermer, lui faire croire qu'il se passe des choses dans cette maison alors que c'est lui qui manipule tout, pour finalement la faire passer et la faire passer pour folle et lui donner l'impression qu'elle devient folle. Donc elle va décortiquer un peu tout ça, elle fait ensuite le lien avec pas mal de choses qui se passent aussi, puisque elle montre qu'il y a des implications plus larges que la vie, comment dire, la vie privée, que ça se retrouve aussi dans des manipulations politiques, enfin voilà, que c'est quelque chose qui devient de plus en plus récurrent dans notre monde actuel. Sujet intéressant, vous me direz, et je suis bien d'accord avec vous. Malheureusement, je n'ai pas du tout réussi à le finir. Et je vous jure que j'ai essayé. Je vous ai déjà dit, hein, les essais, j'ai toujours un peu de mal, etc. Mais j'ai essayé de toutes mes forces. J'ai essayé de le lire. J'ai essayé de l'écouter. Parce que comme j'avais du mal à lire, je me suis dit, bah, je vais essayer un audiobook. Comme ça, peut-être que ça va mieux passer. Et en fait, j'ai pas du tout réussi à le suivre. Principalement à cause de la construction de l'essai et de l'écriture de l'autrice. C'est très décousu sur plein d'aspects. J'ai l'impression d'être dans son fil de pensée qui part dans tous les sens. C'est très long aussi. Franchement, il y a des passages, on pourrait s'en passer. Beaucoup de répétitions, elles se répètent beaucoup. Alors, toujours en essayant d'ajouter une petite pierre à chaque fois, mais je l'ai lu il y a un chapitre avant, donc on a l'impression de tourner en rond en permanence. Et du coup, moi, j'ai décroché ça m'a pas intéressée à cause de ça. Parce qu'il y a beaucoup de sujets abordés qui sont intéressants, mais qui sont délayés dans des pensées un peu tous azimuts. J'ai pas aimé non plus parfois partir sur des détails. Enfin voilà, il y avait une perte de temps, il y a une perte de construction, il y avait trop d'éléments, pas forcément toujours très intéressant. Enfin voilà, c'est perdu. Je pense que ça aurait eu le mérite d'être beaucoup plus court. C'est toujours très dur à dire ça, je trouve, mais je le trouve plus pertinent sur un essai dans le sens où il y a quand même eu des idées un peu complexes parfois à transmettre. Il y a un découpage d'idées, de conséquences et tout ça à dérouler pour nous expliquer. Et là, pour le coup, tout est perdu. Alors, elle décrit des scènes et des scènes du film dont je vous parlais. En veux-tu, en voilà. Et ça, pour le coup, bah, en plus, je n'ai pas vu le film. J'ai l'impression que on en a parlé 10 pages plus tôt, qu'on revient sur le même truc pour me dire la même chose. Donc voilà, malheureusement, ça perd en pertinence à cause de tout ça, en tout cas pour moi. Et du coup, je ne l'ai pas fini, parce que vraiment, ça ne m'intéressait plus et je n'avais plus envie de savoir ce qu'elle avait à me dire. En audio, c'était pas plus facile à écouter. Donc voilà, j'ai abandonné lâchement, j'avoue, avec regret, hein, parce que je trouve que c'est un sujet qui est vraiment hyper intéressant, mais je chercherai un podcast dessus ou un autre SM potentiellement, parce que là, pour le coup, le style d'Hélène Frappa m'a pas du tout convaincue et m'a pas du tout permis de continuer ma lecture. Voilà, si jamais vous l'avez lu, je veux bien votre avis, hein, voilà. C'est toujours intéressant de voir comment ça peut être perçu. C'était une lecture dans le cadre du book club avec mes copines, bisous les filles. Ça a été reçu différemment, certaines ont aimé, d'autres moins, un peu comme moi, mais voilà, donc parfois c'est des choses qui nous correspondent ou non, moi malheureusement ça l'a pas fait du tout, et donc je ne saurais pas la fin de cet essai, et tant pis. Voilà, vraiment, j'ai abandonné sans trop de regrets, parce que j'ai vraiment essayé toutes mes forces, et ça n'a pas fonctionné pour moi, donc ce sera sans moi, cette fois-ci. Voilà, voilà. Écoutez, voilà ce que j'avais à vous dire sur mes dernières lectures. Je sais déjà que j'en aurai d'autres à vous recommander pour le prochain épisode, donc j'essaierai de le faire dans la fin du mois. Et puis en attendant, écoutez, je vous souhaite une belle semaine, de belles journées. Protégez-vous bien de la chaleur qui arrive. Et puis je vous fais des bisous. Bisous, à bientôt.